Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes sur le libre journal des controverses. Je reviens après une semaine. Et oui, ici, c'est les grands travaux, les très grands travaux. Il y a plus de travaux ici à Radio Courtoisie que sur le visage d'Amanda Lear. Donc, c'est vraiment hallucinant. Si vous voyez, là, on est entre les cartons, le plat. La peinture, etc., etc. Nous avons notre petit mètre carré et notre micro pour pouvoir faire des émissions comme ce matin. Donc je salue bien entendu la technique, je salue Virginie à la réalisation, le Spielberg des réalisateurs, elle est ici présente, c'est son retour aussi je crois samedi matin, je ne dirais pas le mot parce qu'on est à Radio Courtoisie bien sûr, et donc on va parler de cette affaire Epstein comme évidemment personne n'en parle, en tout cas pas les grands médias. Pour les grands médias, l'affaire Epstein, c'était juste un gentil tonton un peu libertin qui aimait déboutonner les braguettes. C'est bien plus que ça. Et je reçois pour le coup Infocratie journaliste. Elle travaille justement sur cette affaire. Elle décortique tous les mails un par un. Et tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. On va parler avec elle. Mais avant ça, on va faire une petite genèse, on va dire, de cette affaire. Bonjour, chère Infocratie.
Bonjour, Mike Bourski.
Donc, dites-moi d'abord, les grands médias n'en ont pas parlé. Voilà, ils ont dit que bon, c'était pas grand-chose au début. En réalité, tous ceux qui, depuis des années, alertent, avaient raison.
Alors oui, on s'aperçoit que le complotisme s'avère être en réalité, en fait, la vérité. Et tout ce que disent aujourd'hui les grands médias, ce sont des éléments qui sont déjà connus d'un certain nombre de journalistes indépendants ou de médias indépendants sur Internet. Et ce sont les noms qui sortent aujourd'hui, que vous voyez sortir aujourd'hui dans les grands médias, ce sont des noms que tous les gens qui s'intéressent à l'affaire connaissent en fait déjà.
Justement, comment avant ces grands médias traitaient l'affaire ?
En ce moment, assez peu.
Enfin, mais avant. Il y a 6 mois.
Il y a 6 mois, quasiment rien, sauf exception, juste pour dire le nom Epstein, juste pour dire que la personne existe et qu'il y a une affaire, mais c'était survolé, très superficiel. Et même aujourd'hui, une fois que l'affaire sort, on voit que dans les grands médias, alors ils en font des éditions spéciales, etc., mais c'est pour sortir des noms qui ne sont pas forcément importants. Je pense notamment à quelqu'un comme Jack Lang, qui, même si en France, il a une réputation au niveau de la pédocriminalité, c'est quelqu'un qui n'a plus un pouvoir extraordinaire en termes de politique depuis un moment, en tant que président de l'Institut du Monde Arabe et en tant qu'ancien ministre. C'est plus du tout...
Plus Jack Lang à côté de Mitterrand, quoi.
Voilà, c'est plus le cas du tout. Et les médias donnent des noms peut-être dont les gens ne voient pas très bien qui ils sont, ou voilà, et ça finalement ça n'accroche pas tellement la gravité de l'affaire, quoi.
D'accord. Il parle aussi des Américains pour le coup. Ah oui, Bill Gates machin, bon, c'est pas bien, mais c'est vrai que le grand public, pour eux, Bill Gates tout ça, ils s'en fichent.
Alors, il parle beaucoup de l'affaire américaine aussi, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on a affaire à des médias qui, pour beaucoup, ont des journalistes qui ont fait une partie de leurs études aux États-Unis, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, dès que ça touche aux États-Unis et que ça peut faire un peu les titres et que ça peut faire un peu d'audience parce que ça parle des États-Unis et de quelqu'un de mondialement connu, donc, par exemple, quelqu'un comme Bill Gates, c'est toujours bien d'en parler. Même si, quand même, le fait qu'on sache que Bill Gates est impliqué dans cette affaire, ça montre aussi quand même la gravité, puisqu'on parle de quelqu'un qui est à des niveaux de fortune quand même assez considérables et à des niveaux de pouvoir aussi qui sont considérables. Donc, la personne de Bill Gates impliquée dans cette affaire montre quand même que c'est une grosse affaire quand même.
Qui est Jeffrey Epstein ?
Alors, Jeffrey Epstein, c'est un millionnaire juif américain. On ne sait pas très bien d'où il sort sa fortune, puisqu'on ne connaît pas très bien sa biographie, à vrai dire. Avant d'être marié à Ghislaine Maxwell, il était vaguement professeur de mathématiques dans un lycée un peu prestigieux. On ne sait pas comment il a obtenu ce poste, puisque on ne sait pas s'il a les diplômes et on soupçonne qu'il ne les a pas. Donc, on ne sait pas très bien comment il a réussi à devenir prof de mathématiques. Il a été viré de l'établissement où il a exercé pour une histoire d'attouchement sur des élèves. Après, on n'a pas grand-chose sur lui avant qu'il devienne ami subitement avec Monsieur Leslie Wexner, qui est le patron de Victoria's Secret et qui est milliardaire. Jeffrey Epstein subitement devient ami avec cette personne et il devient riche. On dit il gère le patrimoine et le portefeuille de Leslie Wexner et d'autres milliardaires juifs américains. Et on ne sait pas sur quelles compétences les autres se basent pour lui faire le gérer leur fortune. Ensuite, on le retrouve marié avec Ghislaine Maxwell, qui est elle-même la fille d'un de ces milliardaires, qui est donc Robert Maxwell, qui est aussi lié au Mossad. Robert Maxwell est un milliardaire aussi qui gère notamment des médias au Royaume-Uni, ce qui a son importance. Donc ça veut dire que Ghislaine Maxwell bénéficie de la fortune de son père et de son réseau, notamment au Royaume-Uni, auprès notamment de la famille royale. Et donc on se demande comment Jeffrey Epstein, dont la biographie est à peu près inexistante, peut se retrouver être en couple avec Ghislaine Maxwell.
Donc ça veut dire que peut-être comme certains Rastignac, si je puis dire, eh ben, vont dans des soirées pour se montrer, pour peut-être aller draguer justement la fille du milliardaire. Peut-être a-t-il fait quelque chose comme ça?
Alors c'est quelque chose, c'est comme ça que ça se passe en fait en général dans les milieux les plus élevés, parce que on sait que Ghislaine Maxwell, on la qualifie beaucoup de socialite et de fille très
C'est quoi
mondaine.
socialite?
Quelqu'un de socialite, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui va beaucoup
D'accord.
dans des soirées, dans des événements, dans des conventions à l'opéra par exemple, ou dans des événements d'entreprise, et elle est connue pour avoir les codes sociaux, s'entendre avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle a le réseau et qu'elle fructifie le réseau de son père. Donc, elle a très bien pu rencontrer Jeffrey Epstein à n'importe quelle soirée, et Jeffrey Epstein a très bien pu saisir l'occasion de faire connaissance avec elle et de se mettre en couple avec elle.
Donc ça veut dire que voilà, déjà le gars, il avait un passif en tant que prof de maths. Ensuite, voilà, j'imagine qu'il a voulu s'introduire dans ce monde. Il y a réussi par le biais d'un mariage. Et donc, à partir de ce moment-là, son réseau s'étend.
Alors, c'est son réseau s'étend, mais on va être très 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 clair. C'est le réseau de Ghislaine Maxwell qui bénéficie à Jeffrey Epstein. On sait que par exemple quelqu'un comme le prince Andrew, c'est quelqu'un qui a fait des études avec Ghislaine Maxwell et qui à la base ne connaît pas Jeffrey Epstein, pardon. Le prince Andrew qui est impliqué dans cette affaire, dont on soupçonne qu'il a eu accès à des mineurs par le biais de Jeffrey Epstein. Il ne connaît que Ghislaine Maxwell au départ et il bénéficie de ce que lui procure Jeffrey Epstein uniquement parce que Jeffrey Epstein est marié à Ghislaine Maxwell.
Et à la suite de ça, donc il se marie, il a le réseau, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, avec ce réseau-là, on sait qu'il obtient déjà de l'argent, on sait qu'il fait des affaires avec un certain nombre de ces gens, qu'il crée des entreprises, il gère le patrimoine d'un certain nombre de ces gens. Ces gens, pour certains, ont peut-être des penchants qui touche à la pédocriminalité. Et donc, il est en mesure, lui, de faire du trafic d'êtres humains pour fournir des enfants à ces gens-là, contre rémunération. Il est aussi en mesure d'avoir les vidéos et les photos de tous ces gens-là chez lui, donc dans ses propriétés, peut-être à Paris, peut-être à Palm Beach, peut-être à New York, puisqu'on sait qu'il a des caméras dans tous ses domiciles. Et donc, il est en mesure d'avoir les photos et les vidéos de tous ces gens en train de s'adonner à de la pédocriminalité.
Est-ce que on pense, enfin là on va sur du conditionnel, est-ce que l'on pense que il a rencontré Madame Maxwell, qui s'est mariée avec elle, et après il rentre au Mossad, ou est-ce que c'est avant, ou est-ce qu'elle a eu ordre justement lorsqu'il était déjà au Mossad de former ce couple avec Madame Maxwell et de commencer ses méfaits?
Alors, je ne saurais pas vous dire comment ça s'est passé parce qu'il y a des doutes entre le moment où il s'est fait virer du lycée où il était prof de maths et le moment où il est marié avec Ghislaine Maxwell. Il me semble qu'il a rencontré Leslie Wexner avant de se marier avec Ghislaine
Il y a combien
Maxwell.
de temps entre le prof de maths et Maxwell?
Alors, ça, il y a quand même pas mal d'années, il y a vraiment beaucoup d'années parce qu'il me semble que quand elle rencontre.
Quoi, il y a 10 ans?
Oui, une dizaine d'années. Parce que elle a une trentaine d'années. Son père vient de mourir. Je crois que c'est en 1992. Elle le rencontre vers 1992. Son père vient de mourir. Elle est un peu dans une faiblesse. Et c'est là que lui, il en profite pour la rencontrer et se mettre en couple avec elle dans son moment de faiblesse parce que son père vient de mourir. Lui, je crois qu'il est un peu plus âgé qu'elle. Elle a une trentaine d'années. Et lui, il est plus âgé qu'elle. Et il a quitté son boulot de prof de maths, il avait 25 ans, et là il en a peut-être déjà 35-40.
Alors attendez, il est né en quelle année ce monsieur? Il est né en 53, je crois, c'est ça?
Ouais, en 53, donc en 92, il a 29 ans,
Non,
quelque
non, il
chose
a
comme
plus, la puce. En 92, il a
49, quelque chose comme ça.
43 ans.
43 ans. Il a 43
Non,
ans.
attendez, non, non, allez, on va faire la calcul en direct. On n'est vraiment pas bon, hein. 1992 moins 1953, 39 ans.
Il
Il
a
a 39
39.
ans.
Alors, il a
Donc
39
ça veut dire
ans.
qu'entre 25 ans et 39 ans, on ne sait pas ce qu'il fait.
On ne sait pas
Il
ce
n'a
qu'il
pas de
fait.
métier, il n'a rien.
Il a pas de métier officiel.
Théoriquement.
Alors, en tout cas, on sait que à un moment donné, il est fait dans la vente d'armes. À un moment donné, il fait des affaires avec des entreprises, notamment saoudiennes, qui
Oui.
font de la vente d'armes et que ça lui, on sait que ça lui rapporte de l'argent. On sait que il gère le patrimoine d'un certain nombre de milliardaires qui sont dans les contacts de Leslie Wexner. Et peut-être que pendant ce laps de temps, il étoffe son réseau au niveau des juifs américains qui sont multimillionnaires et par le contact de Leslie Wexner, il gère leur fortune et leur patrimoine. Il s'achète des propriétés
Il ne fait
avec.
que, je veux dire, son réseau de millionnaires, c'est que sa communauté, c'est pas
Alors.
des Anglo-Saxons aussi.
Alors, je crois qu'il est aussi impliqué
Je parle à ses débuts, hein, ses débuts quand il gère.
à ses débuts. Alors, je connais pas très bien toute la liste, la totalité de la liste, mais le plus important, l'homme le plus important, c'est Leslie Wexner et qui est juif. Et tous les gens au début avec qui il crée contact, ce sont des gens qui sont dans le réseau de Leslie Wexner, qui est donc le patron de Victoria's Secret.
D'accord. Ok. Et Leslie Wexner, qui est patron aussi de d'organismes
Alors,
internationaux.
j'ai pas eu le temps de regarder exactement ce que les entreprises de Leslie Wexner, mais il fait partie des personnes les plus riches des États-Unis.
D'accord.
Il est en contact avec toutes les autres personnes qui ont une fortune similaire à la sienne et qui ont besoin de servi des services de
D'accord.
Jeffrey Epstein.
Donc, il est marié, il commence à être installé, et à ce moment-là, il commence ses méfaits.
Alors, il a besoin de Ghislaine Maxwell pour rabattre les enfants dans sa maison, notamment dans sa maison de Palm
Oui,
Beach.
mais au début, il le fait pourquoi? Il le fait par plaisir personnel ou pour étendre d'abord un réseau, ensuite pour faire du chantage.
Alors, au tout
Pourquoi?
début,
Ouais.
mon hypothèse, c'est qu'au tout début, il fait arriver les enfants chez lui, notamment à Palm Beach, donc ces enfants de familles pauvres, etc., pour tester lui-même, parce qu'il est lui-même pédocriminel. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il teste lui-même les enfants pour ensuite s'en servir pour les donner aux autres pédocriminels. Moi, c'est mon hypothèse.
D'accord.
Lui, en tant qu'homme, il ne peut pas traîner en bas des écoles sans être forcément repéré pour avoir des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Ghislaine Maxwell aux abords des écoles pour recruter les
Ah,
jeunes
c'est par
filles.
les écoles qu'elle recrute.
Oui, à Palm Beach, c'est comme ça que ça se passe, dans les lycées. Elle va en bas des lycées, elle va dans les centres commerciaux où il y a les jeunes qui traînent, elle va là où elle va trouver les enfants, et c'est elle qui les rabat en étant toute jolie, toute maquillée, toute
Mais
coiffée.
c'est dingue que voilà, il se marie avec cette femme, et cette femme, elle a le rôle de Madame Olivier, le complice de Fourniret, quoi.
Alors là, il y a quelque chose de vraiment incompréhensible. Si on parlait d'une personne normale, lambda, c'est totalement incompréhensible. Là, en ce qui concerne Ghislaine Maxwell, on parle de la fille d'un
Ah
riche
oui.
homme d'affaires qui lui-même qui côtoie le Mossad tous les jours. Donc lui, enfin elle sait, Ghislaine Maxwell, que son père est au Mossad. Elle sait ce que c'est que le Mossad. Elle sait ce que c'est que la haute société anglaise. Elle sait ce que c'est que les services de
Mais elle est
renseignement.
française, faut dire aussi qu'elle est
Elle
française.
a aussi par sa mère française, sa mère est française et elle a la nationalité. Et il se peut très fortement qu'elle sache très bien que quand elle se met avec Jeffrey Epstein et qu'elle est avec ses penchants qu'il a, Il se peut qu'elle sait très bien qu'il faille mettre son réseau au service des penchants de son mari.
Ça veut dire qu'on lui a demandé, je pense.
Peut-être soit on lui a demandé, soit elle était déjà au courant, elle savait ce qu'elle devait faire. Et elle savait que, par exemple, si elle avait des contacts au niveau du gouvernement français ou au niveau de la France, grâce à elle, son mari
Oui, parce
pourrait.
que c'est pas comme madame. Je vais reprendre l'affaire Fourniret, tiens. Madame Monique Olivier, qui était un peu une marginale, etc., qui écrivait en prison, je crois, à Fourniret. Et c'est à la sortie de Fourniret, qui lui a raconté ses vrais monts et merveilles, devient très vite complice de Fourniret dans ses meurtres. Mais. Madame Maxwell, elle n'est pas dans ce rôle-là. Je veux dire, Madame Maxwell, c'est pas une marginale, c'est une fille de famille, elle est même assez jolie pour le coup. Elle pourrait très bien être avec n'importe qui, enfin n'importe qui qu'elle voudrait, enfin n'importe quel homme qu'elle voudrait. Et tout de suite, elle décide
Alors,
d'être rabatteuse pour lui, en fait.
moi, ce que je pense, c'est que c'est elle le cerveau et que c'est lui l'exécutant.
D'accord.
Dans le sens où peut-être a-t-il déjà une réputation au moment où elle le croise. Et peut-être que c'est l'occasion d'utiliser le penchant de Jeffrey pour le mettre à profit des autres qui ont le même penchant. Elle se dit. Donc peut-être que d'ailleurs que le fait d'avoir été sortie du lycée pour des attouchements sur mineurs, peut-être que ça s'est su et que c'est à cause de ce genre de choses que elle s'est approchée de lui pour dire on sait pour lui dire on sait que c'est toi t'as tes penchants t'as ces penchants-là.
Oui, parce que c'est voilà, son père est Mossad,
Voilà, son
et
père.
peut-être que je dis pas que ça se transmet de père en fille, mais peut-être qu'elle n'était pas éloignée de ce milieu.
Elle n'était pas. Alors, peut-être qu'elle connaît. Après, elle est suffisamment, je pense, aguerrie pour connaître ce genre de problème, pour savoir ce que c'est qu'un compromat, pour savoir qu'on fait du chantage. Elle est assez aguerrie, à mon avis, pour savoir ça. Donc, je pense qu'elle a dû rencontrer Jeffrey Epstein en sachant pertinemment qui c'était et en se disant, très bien, il a ce penchant, il s'est fait virer de son lycée pour des attouchements. Donc, on va utiliser ça à notre profit. On va faire un réseau, on va recruter, etc., etc. De toute façon, la preuve, je la vois au Congrès il y a quelques jours. Elle s'assied, elle dit cinquième amendement, je dirais rien du tout et je veux me faire gracier. C'est la preuve que elle sait très bien ce qu'elle fait, qu'elle sait ce qui s'est passé, elle a tout vu, elle a tout entendu, elle a les preuves. Elle n'a pas nié les faits. Elle n'a pas nié les faits. Elle a dit, je sais ce qui s'est passé, mais cinquième amendement.
C'est quoi le cinquième amendement?
Le cinquième amendement dans la Constitution américaine, c'est l'amendement qui permet à tout accusé de ne pas parler devant les tribunaux. Donc, si elle est innocente, elle dit, je suis innocente, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait, libérez-moi tout de suite, etc. Non, elle n'a pas nié les faits. Elle a dit, je connais les faits. En plus, on l'a questionnée. Elle n'a pas répondu, je ne connais pas les faits. Elle a répondu, je ne parle pas, cinquième amendement, et je veux de la grâce. Donc, c'est qu'elle sait très bien ce qu'elle fait.
D'accord, donc ça voudrait dire que en fait, ça c'est quand même du coup une autre version qu'on n'entend pas trop. Ça veut dire que Madame Maxwell peut-être a recruté Monsieur Epstein pour justement organiser tout ce qu'ils organisaient.
C'est une possibilité. Alors après, par exemple, dans le documentaire de Netflix qui est disponible, que vous pouvez aller voir, il y en a deux. Il y en a un sur Jeffrey Epstein et un sur Ghislaine Maxwell.
Oui.
Et dans le documentaire sur Ghislaine Maxwell, il est dit que elle était faible, son père venait de mourir. Jeffrey Epstein, il a vu sa faiblesse et il a eu un ascendant sur elle. Et elle était faible et donc elle s'est mise à faire tout ce qu'il lui demandait. Notamment parce que après elle était plus à son goût en vieillissant et qu'il voulait que des petits enfants. Je suis désolé de vous dire que même si son père était mort, elle était suffisamment fortunée. Après, apparemment, son père lui aurait laissé des dettes, ce qui fait qu'elle était financièrement dans une situation compliquée quand elle a rencontré Jeffrey Epstein, qui lui était déjà riche quand il l'a rencontré, et peut-être que elle avait besoin de son argent pour maintenir son
Bon,
niveau de vie.
alors, elle prononce Epstein, parce qu'on m'envoie pas. Pourquoi parfois cette prononciation Epstein? Parce que voilà, notre amie Infocratie a l'habitude de prononcer comme les Américains le font. Voilà.
Oui, c'est vrai, mais je vais essayer de dire Epstein jusqu'à la fin.
Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas de, je sais pas quoi, de compromat derrière. Donc,
Et
allez, bah, allez-y.
donc la version donnée par Netflix, c'est que elle était faible, elle avait besoin d'argent et son père venait de mourir et Jeffrey Epstein a pris un ascendant sur elle de cette manière. C'est une très forte possibilité, mais elle est quand même très intelligente, éduquée. Elle a eu des diplômes dans les universités, dans les plus prestigieuses, notamment d'Angleterre, avec le prince Andrew. Donc, quand bien même elle est un peu pauvre et son père vient de mourir, elle n'est pas bête, elle sait très bien ce qu'elle fait et, à mon avis, à qui elle a affaire. Parce que Jeffrey Epstein, il a eu, à mon avis, une réputation. Il a été condamné dans les années 2000 pour détournement de mineurs. Elle était déjà mariée avec lui, mais elle n'était pas ignorante. À mon avis, elle était très loin d'être ignorante de ce qu'elle faisait quand elle s'est mise avec lui. Donc,
Oui, puis il y a cette volonté à chaque fois des grands médias de dire ah, mais c'est l'homme, le patriarcat, etc., en fait, le vrai coupable. Alors que parfois, et même souvent, dans ce genre d'affaires, ça peut être les femmes qui sont les têtes pensantes.
alors, oui, ça peut. Et encore une fois, celle qui a fait des études et qui a les diplômes et qui a les contacts et qui a eu l'argent et le statut, c'est elle. Lui, c'est le dernier des petits loubards de Brooklyn, de New York, qui sort de, encore une fois, on ne sait pas où. Sa biographie, encore une fois, avant de rencontrer Leslie Wexner et même avant d'être prof de maths, c'est pas clair. Ce qu'il a fait n'est pas clair. Et ça, l'origine de sa fortune n'est pas clair non plus. Donc, la tête pensante, le réseau, c'est elle.
Voilà. Donc, oui, c'est pas clair. Je veux dire, les services vont pas. S'ils ont sous la main, voilà, s'ils ont sous la main la fille d'un ancien agent et un mec qui a été prof de maths éphémère, viré pour je ne sais quel attouchement sexuel, les services font leur choix. Je veux dire, ils vont pas aller chercher lui, quoi.
Alors, c'est à moins de pouvoir avoir un levier sur lui, justement. On va le chercher, on va, il n'a pas un profil.
Oui, mais s'il n'a pas de réseau, il n'a rien, bon,
Ben, s'il
c'est
n'a
pas
pas le.
lui qu'ils vont chercher.
Ben oui, justement, mais si son profil est défavorable et qu'on ne peut pas s'en servir parce qu'il n'a pas de
Ouais.
diplôme, il n'a pas de réseau, il n'a pas d'argent et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'obliger à faire ce qu'on veut? On prend ce qu'il a fait, ses dossiers. Il a été
D'accord.
viré pourquoi du lycée? Bon, pas ben, pour attouchement. Bon, ben maintenant, c'est lui l'exécutant. Donc, toi, en fait,
D'accord.
on te dit, bah, très bien, tu as
Donc
été
pour
viré.
vous, c'est un exécutant.
Oui, pour moi, oui.
D'accord. Et ensuite, voilà, donc ce couple prospère et donc il commence, je veux dire, ce couple commence par les lycées et ils se fournissent en jeunes filles déjà pour des gens.
Alors, au niveau de ce qui se passe à Palm Beach, ce n'est pas extrêmement clair. On sait par contre qu'il y a une jeune fille qui aujourd'hui est décédée parce qu'elle s'est suicidée, qui s'appelle Virginia Giuffrey.
Elle s'est suicidée d'ailleurs dans des manières très troubles, on va dire.
Oui, donc on va dire ça. Moi, pour moi, officiellement, elle s'est suicidée. On va voir après comment ça se passe, qu'est-ce qu'on découvre au niveau de l'enquête, etc. Mais pour l'instant, on va dire qu'elle s'est suicidée. Cette femme, elle a dit qu'elle a rencontré le prince Andrew. On sait qu'elle dit qu'elle a été recrutée par Ghislaine Maxwell. Je crois que c'était à New York, il me semble, parce que c'est une New-Yorkaise, et qu'elle a été recrutée par Ghislaine Maxwell, qui est devenue son amie, etc., parce qu'elle était très jeune à l'époque. Puis, elle avait quelque chose comme 16-17 ans. Et puis, elle a été présentée au prince Andrew, et c'est le prince Andrew qui lui aurait fait des attouchements alors qu'elle avait 17 ans. C'est Ghislaine Maxwell qui l'a recrutée. On a tout un tas d'autres jeunes filles de Palm Beach. Qui disent avoir été recrutés par Ghislaine Maxwell et par Jeffrey Epstein, qui disent avoir été testés par Jeffrey Epstein, et après on leur a demandé de recruter, de rabattre d'autres, donc elles ont été violées, et après on leur a demandé de recruter d'autres jeunes filles pour les autres, pour Jeffrey et pour les autres. Notamment à travers une salle où il y avait un salon de massage. Où il fallait qu'elle masse Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell elle-même d'ailleurs. On ne sait pas très bien, on n'a pas su avant très longtemps qui d'autre avait eu accès à eux. On a quand même des photos de tout un tas de gens, notamment le chanteur Bono, Chuck Schumer,
Donc
l'homme.
déjà, des Palm Beach, ils arrivent à... Ils ont le show business.
Oui, il y a tout un tas de gens qui ont été pris en photo dans la maison de Palm Beach de
C'est quoi,
Jeffrey.
c'est les années 90?
Oui, on est dans les années 90-2000, même récemment. Notamment, on a Bill Clinton, on a Bill Gates, on a Stephen Hawking, on a le chanteur Bono, tout un tas de gens. On a des vidéos de Jeffrey Epstein en train de courir avec les enfants dans sa cuisine de sa maison de Palm Beach. Ou alors, il y a la maison de l'île de Little Saint James aussi, où c'est là où il invitait toutes les jeunes filles, où elles se faisaient plus violer par les gens. Là où il invitait plus les gens, c'était Little Saint James, l'île. Plus que Palm Beach. Palm Beach, c'était plus un endroit de recrutement. New York, c'était aussi un endroit de recrutement. Et Little Saint James, l'île de Little Saint James, c'était plus un endroit où il faisait venir les personnes de quota pour faire violer les enfants.
Alors, on va parler de la France, là, parce que bon, c'est surtout la France qui nous intéresse, enfin, moi qui m'intéresse, parce qu'il achète cet appartement à Avenue Foch. Est-ce qu'on le sait pourquoi?
Alors, de ce que j'ai vu, moi, l'appartement qui est avenue Foch, il est dans le 8e arrondissement,
Dans le 16e.
dans le 16e, pardon. Il est très proche du quartier de l'Élysée. Donc, ça part, en fait, l'avenue, elle part de pas loin de l'Élysée et elle va jusqu'au Bois de Boulogne. Donc, c'est
En fait, elle va de l'Arc de Triomphe,
de l'Arc de
exactement.
Triomphe jusqu'au Bois de Boulogne.
Et l'Élysée, c'est en bas des Champs-Élysées.
C'est vers les Champs-Élysées. Et or, les Champs-Élysées, c'est une avenue qui part de la place de l'Étoile. Au même titre que l'avenue Foch. Donc, en fait, en voiture, vous pouvez circuler de l'avenue Foch jusqu'aux Champs-Élysées très facilement en quelques minutes, et vous êtes en quelques minutes au palais de l'Élysée. Donc, je pense que cet appartement a été choisi pour sa proximité avec le palais de
Bah,
l'Élysée.
c'est vrai qu'à Avenue Foch, il y a tout, hein. Faut se dire les choses. Voilà, ça part de Port-Dauphine à l'Arc de Triomphe. On sait que Avenue Foch, pour les Parisiens qui nous écoutent, il y a les ambassades, il y a la prostitution en bas. Et voilà, on est à 10 minutes en voiture des lieux de pouvoir français.
Oui, donc c'est intéressant qu'il ait choisi d'avoir cet appartement-là, cette maison, cet hôtel particulier à cet endroit-là dans Paris. C'est un accès qui lui a été donné, à mon avis, par Ghislaine Maxwell, parce que Ghislaine Maxwell possède la nationalité française, possède quelques contacts, notamment par sa mère, dans
On
ce
sait
pays.
qui était sa mère?
Alors, je ne me souviens plus du tout de quel est son nom et de qui elle
Non, mais
était.
est-ce qu'elle avait un rôle, quelque chose, ou c'était
Alors,
juste
elle
une femme
avait.
lambda?
Je ne me souviens pas avoir vu comme ça qu'elle avait un rôle en particulier, mais Ghislaine Maxwell, elle a la nationalité, et en fait, elle n'a pas besoin spécialement de sa mère pour se faire des contacts en France,
D'accord.
parce premièrement, elle a la nationalité, deuxièmement, elle a l'argent de son père pendant un certain temps, et donc, elle a quand même fait ses études en Angleterre, et elle est en capacité de faire toute seule, de se faire son réseau toute seule à Paris. Et d'en faire bénéficier Jeffrey Epstein, notamment par exemple. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Brunel, qui était le patron d'Elite, on ne sait pas dans quelle mesure il connaissait plus Jeffrey Epstein que Ghislaine Maxwell, mais il est certain qu'elle a été en capacité au moins de gérer administrativement l'achat de cet hôtel, parce qu'elle parle et elle a la nationalité, ce que Jeffrey Epstein ne fait pas.
Mais c'est-à-dire que cet hôtel en particulier qui vaut des. On a vu les photos. D'ailleurs, il est toujours en l'état, j'ai l'impression.
D'ailleurs, oui, il y a eu une perquisition, mais j'ai l'impression qu'après, il ne s'est rien passé depuis dedans, et qu'il est toujours, il est toujours comme ça. Et
Donc les propriétés de Madame Maxwell, toujours, non?
à vrai dire, je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé en termes de propriété, à qui a-t-il été vendu, si ça a été vendu ou pas. Il faut savoir que quand même, la justice française qui a fait une perquisition chez Jean-Luc Brunel et au Avenue Foch a saisi tout un tas de choses dans ces appartements-là. Et donc, on ne sait pas dans quelle mesure la justice française a gelé quoi que ce soit au niveau de ces appartements pour pouvoir continuer à faire des enquêtes, ou même ne rien faire du tout, parce que j'ai quand même l'impression que depuis qu'il y a eu des actes de perquisition chez Jean-Luc Brunel et qu'on a appris les éléments, qu'on s'en est pas servi pour faire un procès, je ne sais pas finalement qu'est-ce que la justice française a décidé de faire de tout ça. Visiblement, rien du tout depuis plusieurs années. Donc, on ne sait pas, il n'y a pas de procédure qui avance alors qu'il
Donc
y a
s'il y a
des.
des squatteurs qui nous écoutent, hein, vous pouvez y aller, hein, c'est libre. C'est libre, vous pouvez vous faire un an ou deux dans un hôtel particulier. En plus là, on est dans la période hivernale,
Et ouais.
donc vous ne serez pas viré. C'est ça. On sait ce qui s'y passe dans cet hôtel particulier.
Alors, apparemment, il y a des caméras, que ce soit à New York, à Palm Beach ou à Paris. Donc, il est pas fort probable que des soirées se soient passées dans cet hôtel particulier. De toute façon, chez Jean-Luc Brunel, ils ont saisi des clés USB, des disques durs, des vidéos, des photos. Donc, Jean-Luc Brunel et son activité étaient essentiellement à Paris. Donc, sur les photos et les vidéos, il est fort probable qu'on retrouve des éléments du 22 Avenue Foch, c'est-à-dire des gens qui se trouvent dans l'hôtel particulier de M. Jeffrey Epstein. Mais on sait que, par exemple, quelqu'un comme Fabrice Hédan, qui est le diplomate, qui a été pris
Oh
pour.
là. Allez, allez-y, continuez, continuez.
Qui a été pris pour, qui a été pris pour détention d'images pédopornographiques. Il était en contact avec M. Jeffrey Epstein. On sait que il y a le M. David Siad, Daniel, pardon, Daniel Siad, qui était aussi un rabatteur pour M. Jeffrey Epstein. Il était en contact avec et Brunel et Epstein qui se rabattaient pour avoir les filles au 22 Avenue Foch. Donc, il y a des soirées qui se sont passées là-bas.
Alors, on me crie, cher Mike, choqué quand même que votre invité minimise les crimes de Jack Lang, parce qu'il est vieux, ça efface tout. En revanche, bah, déjà, je voudrais répondre quand même. Non, mais en fait, c'est pas quoi. Moi, je comprends ce qu'elle veut dire et je partage son avis. C'est pas qu'on minimise les crimes de Jack Lang. C'est qu'en réalité, on connaît les médias, madame connaît les médias, je les connais. Et vous allez voir que le gars qui va porter le chapeau, c'est Jack Lang. Voilà, il va porter le chapeau pour toute la France. Voilà, il va toujours. Alors que vous avez officiellement des Le Maire, des conseillers diplomatiques de Nicolas Sarkozy, que Epstein était à l'Élysée, il allait à l'Élysée. Et donc toutes ces informations, et peut-être qu'il y en a d'autres, hein, peut-être qu'il y a d'autres ministres, peut-être qu'il y a d'autres hauts fonctionnaires, d'autres administratifs, j'en sais rien, des types qui sont encore aux manettes, qui sont au pouvoir, eh ben tout cela, ils passeront entre les gouttes parce que on aura mis en avant Jack Lang, parce qu'en réalité c'est facile de mettre en avant Jack Lang. Jack Lang c'est une momie aujourd'hui, regardez-le, on dirait qu'il tient plus debout le pauvre. Voilà, ça ne signifie pas que derrière vous on minimise ce qu'il fait. Ben voilà, Jack Lang, c'est une autorité publique, c'est un criminel. Voilà, on le sait. Il va payer, enfin, j'espère qu'il va payer, je pense pas, hein. Je pense que un jour on entendra que il se sera pas réveillé un matin, voilà, je pense que ça se passera comme ça, hein, je vous le dis très sincèrement. Mais du coup, quand ça se passera comme ça, on arrêtera les médias, madame Apolline de Malherbe dira, bah, bon, bah, Jack Lang, il est plus là, paix à son âme, on passe à je ne sais quoi du gouvernement et tout, merci, et puis on n'entendra plus parler de rien d'autre. Voilà. C'est ça en fait. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, la deuxième question, la deuxième partie du question. Dans un message du 30 août, ben ça c'est plus important, hein, du 30 août 2018, Epstein écrivait que Macron veut mon avis sur presque toutes les institutions, les politiques, la science. Et ajoutait que le dirigeant français veut diriger l'Europe, peut-être le monde. Macron serait-il tenu? Et comment, par qui la France serait-elle gouvernée?
Alors, moi, de ce que j'ai vu des éléments du dossier que le ministère de la Justice américaine a donné, c'est que, alors, non seulement Emmanuel Macron envoie beaucoup, beaucoup de mails à Jeffrey Epstein pour lui demander des conseils sur plein de choses, mais on a aussi Ariane de Rothschild, qui est donc une femme de la famille de Rothschild en France, qui envoie aussi beaucoup de mails, des milliers et des milliers, à Jeffrey Epstein et qui lui parle aussi de Macron. Ariane de Rothschild dit à Jeffrey Epstein qu'elle va dîner avec Emmanuel Macron en 2016, donc avant qu'il soit président. Et ça veut dire qu'elle estime que peut-être c'est quelqu'un qui va devenir important et qui va devenir président en 2017. Et donc elle porte à sa connaissance l'existence d'Emmanuel Macron en 2016 avant qu'il soit président. On sait aussi que Emmanuel Macron a envoyé beaucoup de mails à Jeffrey Epstein pour lui demander des conseils sur la politique, mais aussi des conseils financiers. On sait que, par exemple, quelqu'un comme Bruno Le Maire a été cité parce qu'il a demandé de l'argent pour financer sa campagne en 2017. Voilà, et on sait que Jeffrey Epstein, pardon, est-ce qu'il est impliqué dans la politique française? Je ne sais pas, mais Ce qui est certain, c'est que on lui demande son argent, on lui demande des conseils financiers, on lui demande des conseils politiques, alors que cet homme, donc au moment où il reçoit un certain nombre de mails, il est déjà condamné pour avoir fait du détournement de mineurs. Donc moi, je me demande, mais qui sont les hommes politiques en France qui demandent des conseils politiques à un pédocriminel? C'est tout à fait inconcevable, alors que c'est connu qu'il est condamné. Donc
Oui,
pourquoi?
mais bon, alors, le fait de demander des conseils à un pédocriminel, ça c'est très grave, en effet. Ce qui est grave aussi, c'est au nom de... Enfin, qu'est-ce qui est Monsieur Epstein pour qu'il demande des conseils?
Mais voilà, je ne comprends pas, je ne sais pas. On lui demande des conseils financiers, des conseils politiques. Ariane de Rothschild lui transfère par mail toutes les discussions familiales à propos des testaments, de l'argent, etc., des transferts d'argent. Ariane de Rothschild transfère ces conversations à Jeffrey Epstein. Elle lui demande des conseils sur la fortune, elle lui donne exactement les montants qu'il y a sur ses comptes. Elle veut. Je sais, je ne comprends
Bah,
pas.
c'est ouais, voilà, c'est comme si demain vous demandiez un crédit et le directeur de votre agence vous trouve tellement génial alors que vous êtes menuisier et vous transfère tous ces mails liés au crédit de ses clients. Comment gérer mon agence BNP ou je sais quoi? C'est ça un peu.
Ouais, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe.
C'est quand même bizarre.
Mais moi, surtout que Ariane de Rothschild, elle va quand même d'une famille qui est déjà dans la banque, qui est installée dans la banque, qui possède plusieurs banques en France, partout dans le
Est-ce qu'il
monde.
était lui aussi le Mozart de la finance? C'était peut-être lui en fait le Mozart de la finance.
Peut-être,
Et on
peut-être.
l'a perdu malheureusement. On a perdu le Mozart de la finance et voilà quoi.
Peut-être.
Il devait être conseiller technique à l'Élysée comme Mozart de la finance.
Voilà, donc c'est totalement incompréhensible que des gens qui sont eux-mêmes déjà dans la banque installée, qui sont déjà dans les, qui connaissent normalement un peu leur sujet, etc. C'est totalement incompréhensible qu'ils demandent des conseils à Jeffrey Epstein, pardon. Et je voudrais revenir sur
Allez.
Jack Lang, parce que apparemment quelqu'un pense que je minimise. Pas du tout. Jack Lang a une réputation, on la connaît, tout le monde la connaît. On sait, c'est établi qu'il va au Maroc et on soupçonne, tout le monde soupçonne depuis des années. Que c'est pour bénéficier de largesse au niveau des enfants. Bon, en tout cas, ce sont des soupçons, des rumeurs persistantes à son sujet. Bon, je ne peux pas prouver ces rumeurs-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que Jack Lang, en effet, a fait envoyer ses passeports et les copies de ses passeports à Jeffrey Epstein, ainsi que les passeports de toute sa famille. Je sais aussi, je peux lire dans les mails que monsieur Jack Lang. Parle de Marrakech à Jeffrey Epstein tout le temps. Il lui dit, je vais à Marrakech, je vais à Marrakech, je vais à Dubaï, je vais à Paris, je vais à Marrakech, je vais à Dubaï, tout le temps. Pourquoi dit-il à M. Jeffrey Epstein, je vais à Marrakech, je vais à Marrakech, et pourquoi lui envoie-t-il ses passeports? Jeffrey Epstein, comme on le sait, il est propriétaire d'un avion qui s'appelle le Lolita Express, qui, quand il atterrit à Paris, atterrit à l'aéroport du Bourget. Jack Lang passe son temps à parler de l'aéroport du Bourget à M. Jeffrey Epstein dans les mails. Bon, on peut soupçonner, même si je n'en ai pas la preuve, on peut soupçonner que c'est parce qu'il est question de prendre l'avion de Jeffrey Epstein pour aller au Maroc. C'est mon hypothèse. Je n'en ai pas la preuve, mais c'est une hypothèse qui, à mon avis, est la bonne. Bon, je suis au courant des rumeurs et de la réputation de M. Jack Lang et que les faits sont graves. En fait, les faits sont graves pour toutes les personnes qui sont impliquées. Les faits sont graves, on parle de crimes. Peut-être le même un des crimes les plus graves qui puisse être commis. Mais ce que je dis, c'est que Jack Lang, aujourd'hui, a perdu l'influence qu'il a pu avoir dans les années 80 quand il était ministre. Et donc, si aujourd'hui, on ressort le nom de Jack Lang en premier dès qu'il y a un petit peu d'affaires qui sortent, si c'est son nom qui sort en premier, à mon avis, c'est pour couvrir d'autres qui ne sont pas encore sortis, qui sont les noms qui sont caviardés dans les mails.
Bien sûr, c'est clair. Ah tiens, un auditeur qui nous fait la biographie de Madame Maxwell, il nous l'écrit, donc je vais la lire. Sa mère à Ghislaine Maxwell est Elisabeth Ménard, qui est enterrée en Dordogne. Voici l'histoire. Maxwell Robert, dit capitaine Bob de son nom Jan Hock, né en Ruthénie, au bout de l'ex-Tchécoslovaquie, né à Solotvino, Ukraine, le 10 juin 1923, mort en mer le 6 novembre 1991, suicide ou crime, on ne sait pas, au large des îles Canaries, inhumé à Jérusalem. À la fin de la guerre, de Il devient le Gallois Jones, puis Monsieur Dumouriez, marque de cigarette, nom sous lequel il s'est présenté à Elisabeth Ménard, dite Betty. Oui, puis Maxwell Dumouriez, pardon. Puis Maxwell Dumouriez, marque de cigarette. Ah, donc il a pris le nom d'une marque de cigarette. Elisabeth Maxwell, surnommée Betty, née Elisabeth Ménard le 11 mars 1921 à Saint-Alban-de-Roche et morte le 7 août 2013 à Dôme, est une historienne franco-britannique. Elle est spécialiste de la Shoah et fonde en 1987 Holocauste et génocide, qui deviendra sa femme et enfin celui du nom écossais de Maxwell, qui est celui d'un de ses officiers, caporal, sergent. Puis sous-lieutenant décoré de la Military Cross, non pas lors du débarquement en France, comme imprimé partout, mais sur le front de Hollande en janvier 1945, page 211-212 du livre Le Grand Jeu de Monsieur Deniau. Voilà, donc vous avez vu, hein, on a quand même des gens qui suivent et qui vont nous donner des informations en direct. On les a en direct. On va passer au Bobino et ce sera la seconde partie de l'émission.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux les samedis matins. Continuez à soutenir Radio Courtoisie. Nous avons besoin de vous pour être libres, constamment libres. C'est parce que vous en êtes les patrons que nous permettons cette liberté d'expression, comme aujourd'hui sur l'affaire Epstein de A à Z. Parce que si nous avions des annonceurs, parce que les autres grands médias ont des annonceurs, des publicités, et c'est parce que ils ont des annonceurs qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, parce que les annonceurs, c'est les annonceurs qui choisissent pour la plupart du temps ce que les médias vont dire, ce que les invités qui vont parler, etc. Donc voilà, donc nous continuons, donc vous nous soutenez, vous êtes les patrons, et allez-y, nous continuons donc cette émission sur Jeffrey Epstein. Vraiment, on essaie de tout dire. Voilà, on est sur sa partie française. Voilà, on apprend en plus, ce qui est dingue, hein, que la justice garde les mails depuis 6 ans, que jamais elle n'en parle, jamais elle les montre. On est quand même,
Alors,
c'est quand même hallucinant, quoi.
là, moi, je ne sais, je ne comprends pas. Alors, moi, j'ai un acte de justice qui a été émis par le
Oui.
ministère de la Justice français, qui donc fait mention d'une perquisition chez Monsieur Jean-Luc Brunel et qui fait la liste donc de tout ce qui a été trouvé chez Monsieur Jean-Luc Brunel. Donc, comme je disais tout à l'heure, on retrouve les clés USB, les disques durs, les photos, les vidéos qui ont servi de compromat très probablement. Et ce document existe, il est officiel. Donc ça veut dire que la justice française possède ce qui a écrit sur ce document, dans tous les tout ce qui est scellé au tribunal ou je ne sais où, dans les scellés en France. Bon, la question c'est pourquoi n'en a-t-elle pas fait un procès de tous ces éléments? Bon, Monsieur Jean-Luc Brunel est mort. Donc ça veut dire que toute action de justice est définitivement impossible à faire parce qu'il est mort. Après, la question qui se pose, c'est pourquoi elle ne les a pas utilisés, peut-être pour les sortir aux journalistes dans la presse, ou pourquoi ne pas en avoir fait une enquête pour autre chose, par exemple une enquête sur Ghislaine Maxwell. Pourquoi la justice n'a pas dirigé son enquête vers Ghislaine Maxwell une fois que Jean-Luc Brunel était mort? Voilà, ça c'est une question qui se pose, parce que aux États-Unis, Ghislaine Maxwell, elle est en prison, elle passe devant le Congrès. Éventuellement, elle dit cinquième amendement, elle ne veut pas parler, etc. Mais aux États-Unis, il y a une forme d'enquête, une forme d'audition, une forme de châtiment pour Ghislaine Maxwell. En France, on ne dit pas très bien l'action de justice est éteinte pour Jean-Luc Brunel, mais on va quand même utiliser les éléments pour faire une enquête sur Ghislaine Maxwell, sachant que Ghislaine Maxwell a la nationalité française. Il n'y a, à ma connaissance, il n'y a pas eu une telle décision. Donc, c'est quand même assez dommage de ne pas avoir eu d'enquête supplémentaire. Ceci étant dit, il va falloir se poser la question de pourquoi les juges n'ont-ils pas décidé de faire ça et ont-ils peur d'une forme de pouvoir ou pas? Moi, je ne suis pas, comment dire, je n'établis pas que tous les juges, pardon, tous les juges sont soumis au pouvoir de manière floue comme ça. Je ne peux pas expliquer pourquoi il n'y a pas eu de cette enquête-là. Après, certains diront qu'il y a des juges qui sont bien placés pour servir au pouvoir. C'est la vérité. C'est peut-être la vérité, mais je ne dispose pas d'éléments pour dire que les juges sont soumis au pouvoir et que donc ils refusent de faire des enquêtes parce qu'ils seraient soumis au pouvoir.
Mais ce qui est quand même bizarre dans cette histoire, c'est que on entend CIA, on entend Mossad, très bien, mais on n'entend jamais les services français. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que bon, peut-être que les médias ne veulent pas en parler, c'est ce qui est une possibilité, ou est-ce que c'est parce que en fait l'objectif de Monsieur Epstein et de Madame Maxwell, comme aussi elle est franco-britannique, et de compromettre les élites françaises. C'est-à-dire que c'est une opération réalisée de l'étranger pour compromettre les élites françaises. Point d'interrogation.
Alors, on sait que par exemple, le diplomate Fabrice Hédan, par exemple, avait du compromat sur lui, puisqu'il était déjà plus ou moins pris pour à posséder des images à caractère pédopornographique. Donc, ça me fait dire qu'il y a peut-être d'autres personnes dans ce dossier qui sont françaises et qui sont tenues, qui sont haut placées et qui sont tenues avec une forme de compromat. Ça, c'est tout à fait plausible. Fabrice Hédan est un exemple. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes dans son cas. Quant aux services de renseignement français, moi, je tiens pour sûr dans les éléments que Jeffrey Epstein a été en contact avec des gens qui sont eux-mêmes en contact avec les services de renseignement français. Je sais que, par exemple, dans la période où il était dans la vente d'armes, dans le secteur de la vente d'armes, il était en contact avec Monsieur Adnan Khashoggi, qui est l'oncle de Jamal Khashoggi, donc l'oncle de celui qui a été tué à l'ambassade. Et cet Adnan Khashoggi est lui-même en contact avec les services de renseignement français parce qu'il a acheté une propriété au Kenya sur la demande des services de renseignement français pour créer un club qui avait vocation à lutter contre le communisme en Afrique pour pouvoir garder la France-Afrique. Donc cet Adnan Khashoggi était en contact avec Monsieur Jeffrey Epstein pour la vente d'armes en Arabie Saoudite. Or, il a acheté cette propriété dans les années 70 et le communisme est mort en 1991. Donc je pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de cette propriété après 1991, ce monsieur Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi est mort. Et donc Jeffrey Epstein aussi. Donc on ne pourra pas nous expliquer, en tout cas ce ne sera pas eux qui pourront nous expliquer qu'est-ce que faisait Adnan Khashoggi avec cette propriété. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que Jeffrey Epstein a eu accès à cette propriété-là au Kenya? Et est-ce que Jeffrey Epstein s'est servi d'Adnan Khashoggi pour avoir des contacts avec les services de renseignement français?
Oui, c'est fort possible pour le coup. Mais alors, du coup, voilà, ça voudrait dire que, en fait, les idiots de l'histoire, c'est nos services, enfin, c'est nous, quoi, en fait, enfin, c'est la République, puisque, voilà, on a compromis des services étrangers et peut-être israéliens ont compromis les élites françaises. Et donc, du coup, si elles sont compromises, on comprend aujourd'hui. Pourquoi toutes ces ventes de fleurons français à l'étranger?
Alors oui, par exemple, on sait que quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, qui est aujourd'hui président de la République, tout le monde est, comment dire, est outré qu'il ait vendu des fleurons comme Alstom ou Technip aux Américains. On a tous vu Frédéric Pierucci aller s'exprimer sur Internet dans les médias Thinkerview pour expliquer comment il s'est fait prendre en otage en prison pour que les Américains puissent acquérir Alstom, avec la totale complicité des élites françaises et d'Emmanuel Macron en particulier. Il y a aussi l'entreprise Technip. Et la partie d'Alstom qui a été vendue, ce n'est pas la partie train, c'est la partie turbine nucléaire énergie. Ça veut dire la partie qui est la plus stratégique en fait de l'entreprise. Et les Américains, à ce moment-là, savent très bien ce qu'ils achètent. Ils savent très bien pourquoi ils veulent acheter cette partie-là en particulier. Et ils utilisent leur droit américain et notamment la notion d'extraterritorialité pour attaquer directement les intérêts stratégiques français. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que les élites françaises aient pu accepter un tel deal? Est-ce qu'ils ont été, ils ont fait l'objet d'un chantage ou est-ce que ils ont accepté parce qu'on les a menacés.
Et parce que c'est ça l'histoire en fait. C'est bon, évidemment, c'est très grave. Et à titre personnel, je pense que les Epstein et tous les autres, toutes les personnalités mêlées, parce que pédocriminels, méritent la peine de mort. Et c'était vraiment la pire des erreurs qu'a pu faire. Enfin, les erreurs, enfin, c'est pas, enfin, c'était voulu, bien entendu, de supprimer la peine de mort. Mais ça ne doit pas cacher le fait qu'on puisse aujourd'hui comprendre que pourquoi ce pays est vendu à la découpe. Ce pays est vendu à la découpe parce que des Epstein et peut-être d'autres encore ont des dossiers ultra sensibles sur notre élite qui est dans l'inversion totale des valeurs. Et quand je dis élite, évidemment, on ne va pas prendre le mot comme quelqu'un, comme on le comprenait autrefois, des gens intelligents, ce que vous voulez, ou qui apportaient, etc. Non, non. Quand je dis élite, ça veut dire c'est que ça reste quand même des décisionnaires, des gens de pouvoir, d'argent et tout ce que vous voulez, dans ce sens-là. Et donc voilà, on finit par comprendre
Oui, voilà,
pourquoi ce pays, depuis 10 ans, il s'écroule.
on se demande, est-ce qu'il y a du compromat, par exemple, sur la personne d'Emmanuel Macron qui a vendu l'entreprise? Il y en a d'autres dans les élites françaises qui ont bénéficié de la vente d'Alstom, qui ont pris de l'argent. Est-ce qu'il y a des choses aussi sur eux? On sait que donc Fabrice Hédan, le diplomate, avait du compromat sur lui. Donc, est-ce qu'ils avaient du compromat sur qui d'autre? Donc, on cherche à
Il y
savoir.
avait le gars là, le conseiller diplomatique de Sarkozy.
Ah, Odon,
Oui,
c'est ça, c'est Odon.
oui.
Oui, je me souviens. Alors, j'ai pas eu le temps de tout regarder sur cet homme-là, mais effectivement, on sait qu'il a été en contact avec aussi les diplomates scandinaves et que dans les mails, apparemment, on a pu lire que est-ce que tu as le compromat sur ce Odon, sur ce diplomate scandinave, sur lui, et est-ce que tu peux lui faire ça, s'il te plaît? Parce qu'on a les photos, on a les vidéos, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux lui demander de faire ça? C'est dans les mails.
Bah
Donc,
oui, donc
c'est la menace.
bah, c'est ça en fait, et c'est pour ça qu'il faut creuser et il faut comprendre qui parmi les gens de pouvoir et décisionnaires sont justement compromis dans cette affaire, et derrière, si elles sont compromises, quelles ont été les conséquences? Est-ce que ces personnes-là ont permis la vente de telle entreprise? Est-ce qu'elles ont diffusé, je sais pas moi, tel secret d'État? Parce que c'est possible, hein. Qui dit que le gars de chez Sarkozy, il n'a pas donné des secrets d'État liés à la politique étrangère?
Oui, mais de toute façon, on sait que par exemple, il y a beaucoup de gens qui. Bah, d'ailleurs, Fabrice Hédan lui-même, il envoyait des dossiers à Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que on sait que ce monsieur Fabrice Hédan, il transférait des mails avec des documents top secret, avec des informations.
Donc
Il
voilà.
les transférait à monsieur Jeffrey Epstein.
Donc du coup, alors on ne sait pas trop si ces Américains, si Israéliens ou si c'est les deux peut-être, ont bénéficié de secrets français. Enfin, je sais pas. Mais personne, j'ai l'impression que personne à France Télé, à BFM ou j'en sais rien, ou à TF1 ne se pose la question. Aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est pas juste une affaire sexuelle.
Alors, pour moi, pour moi, l'affaire sexuelle, c'est le départ. C'est-à-dire que on est capable de dire qu'un tel a des comportements pédocriminels, donc par exemple quelqu'un comme Fabrice Hédan ou d'autres, et ça, c'est le point de départ. Et ensuite, on a le compromat, la vidéo, la photo, on a ensuite la menace, c'est-à-dire les ordres, tu dois faire ça, sinon on diffuse ça. Il y a tout le volet financier, c'est-à-dire que Jeffrey Epstein était rémunéré pour fournir des enfants à des gens. Donc, par où passe l'argent? Qui le paye? Il y a la question du réseau. Donc, quel est le réseau qui lui permet d'envoyer des enfants à ces gens-là? Donc, dans quel service travaillent-ils, tous ces gens? Donc, il y a des diplomates, mais il peut y avoir des ministres, des hauts fonctionnaires, des tas de gens qui ont du pouvoir. Il y a le volet politique aussi. Donc on a les images, on a le financier et on a aussi le politique, c'est-à-dire que après on choisit aussi qui vient pour faire du compromat et sur qui on a du compromat, sur qui on a des éléments. Donc on peut très bien avoir des éléments sur des gens qui deviennent président de la République après. On peut avoir des éléments sur des gens qui deviennent ministres, premiers ministres. On peut avoir des éléments sur des gens qui font partie de la famille royale, donc comme par exemple le prince Andrew. Et donc c'est une affaire qui est tentaculaire, ce n'est pas juste une affaire de pédocriminalité. La pédocriminalité, c'est le point de départ. Après, il y a l'argent et il y a la politique et le pouvoir.
Ça pourrait même être d'ailleurs pour ça que, après les annonces des Biden à l'époque ou des Trump aujourd'hui contre les intérêts français ou européens, eh bien, on a eu la France et l'Europe qui se sont, pour la plupart du temps, tues, quoi.
Oui, mais parce, et parce que, en fait, si vous voulez, en Europe, on a un problème. Alors, on a un problème globalement d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et il me semble que dernièrement, ce qui s'est passé à Davos a démontré que les élites européennes sont en train de se rendre compte que les États-Unis ne vont plus les soutenir. Et ça signifie que déjà politiquement et financièrement, ils vont plus être soutenus, mais ça signifie aussi qu'il y a aussi un risque pour ceux qui sont peut-être impliqués dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, il y a un risque que peut-être les éléments que les Américains ont sortent, puisqu'il n'y a plus de soutien politique.
Ben justement, est-ce que l'on sait là comment... Enfin, je veux dire, l'appareil de la justice américaine a sorti maintenant. Est-ce que c'est un hasard, c'est pas un hasard?
Alors moi, j'ai plusieurs hypothèses. Je me demande, est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Parce que Donald Trump, il faut se souvenir qu'il s'est fait élire sur tous les autres, c'est des pourris. Je vais sortir les affaires, je vais sortir les dossiers, j'ai vu ce qu'il y a dedans, c'est dégueulasse, je vais tout dire. Je vais faire sortir l'état profond, etc. etc. Bon. On s'est dit donc, c'est lui qui est en position de un peu de justicier, tout ça, et donc ça va sortir, et c'est lui qui va aider à ce que ça sorte. Les documents sortent maintenant, mais le problème, c'est que maintenant, en termes de calendrier, ça correspond aussi à une période où il y a un problème avec l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran est en train de subir une opération de déstabilisation gouvernementale. Et donc, on se demande, est-ce que Donald Trump va y aller ou pas? Il est question que Donald Trump aille en Iran. Or, il veut peut-être aller chercher les pétroles là-bas, etc. Et il y a des gens qui se demandent, est-ce que ça a un rapport avec la guerre en Iran, le fait que ça sorte maintenant pour obliger Donald Trump à aller en Iran? Mais c'est une hypothèse que je ne peux pas prouver pour l'instant. Et donc, je ne sais pas, en fait, pour l'instant, si c'est Donald Trump qui les a sortis lui-même parce qu'il a dit qu'il allait les sortir pour faire sortir tous les gens qui sont impliqués, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui menace Donald Trump avec cette affaire-là parce que peut-être il est impliqué dedans. À ce stade, on ne sait pas dans quelle mesure lui, il est impliqué, quelles sont les photos où il est dessus et quels sont les faits pour lesquels on peut lui reprocher quelque chose juridiquement parlant. Donc, c'est très compliqué parce que, notamment les démocrates, ses adversaires, disent que Donald Trump est impliqué et qu'il y a des éléments et qu'ils vont les sortir. Et pour l'instant, on ne les a pas encore vus, mais on ne sait pas quel est le degré d'implication de Donald Trump pour l'instant dans cette affaire.
Donc, franchement, cette histoire, c'est James Bond.
Alors, c'est la plus grosse histoire qui est sortie depuis les dernières années, qui est totalement incroyable. Et moi, je pense que c'est l'affaire qui est en train de sortir à la vue du grand public. C'est-à-dire qu'avant aujourd'hui, il y avait des gens qui connaissaient un peu l'affaire, c'était un peu des gens un peu éveillés, un peu informés qui connaissaient l'affaire. Aujourd'hui, c'est l'opinion publique générale qui est au courant de l'affaire. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est un choc, parce qu'ils apprennent ça maintenant. L'opinion publique sait ça maintenant. Ça veut dire que maintenant, politiquement, toutes les décisions qui seront prises à propos de cette affaire seront des décisions manifestes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Yael Braun-Pivet qui refuse de faire une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Cette décision, maintenant, est connue de tous, parce que tout le monde s'intéresse à l'affaire. Tout le monde a vu passer l'affaire, c'est dans tous les médias. Donc, elle, politiquement, elle sera celle, au niveau du grand public, qui aura refusé d'enquêter sur l'affaire.
Et les gens se diront, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut cacher?
Voilà.
Qui veut-elle protéger?
Voilà, tout le monde se demandera pourquoi elle a décidé de ne pas le faire. Alors que LFI, apparemment, pousse pour ouvrir cette commission. Et elle refuse de le faire. Et donc, ça veut dire que maintenant aussi, on attend que ce soit la justice française qui ouvre une enquête sur le volet français de cette affaire, notamment sur quelqu'un comme Fabrice Edan, mais aussi sur Daniel Sciad et tous les autres qui sont impliqués dedans, sachant qu'il y a encore des noms qui sont caviardés, donc la justice française peut avoir accès aux documents non caviardés, peut-être, si elle demande, en tout cas si elle le demande. Donc on va voir aussi, en fonction des noms auxquels elle pourrait avoir accès, qu'est-ce qu'elle va faire contre qui à propos des ressortissants français. Mais il serait tout à fait judicieux que la justice française puisse se saisir des faits qui ont été commis sur le territoire français ou par des personnes de nationalité française. Ce serait très intéressant que la justice fasse ça.
La justice le fera-t-elle? Surtout lorsqu'on apprend que M. Macron fait cette déclaration en disant non, mais c'est une affaire américaine, ce n'est pas une affaire française. Ça aussi, ça a choqué.
Alors oui, c'est incompréhensible de dire cette phrase parce que la propre protagoniste, la femme de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, c'est une femme française, dont la mère est française, de nationalité française. Vous avez un rabatteur qui s'appelle Jean-Luc Brunel, qui était patron de Elite quand même, qui est une grosse agence de mannequins, une des plus connues du monde. Il était français. Donc le diplomate Fabrice Hédan, qui était français. Vous avez Jack Lang, qui est soupçonné d'être dedans, qui est français, ancien ministre français. Vous avez donc Daniel Ciat, des tas de gens qui sont français et qui
Bruno
sont
Le Maire même.
Bruno Le Maire.
Macron lui-même.
Peut-être.
Oui, mais il demande des conseils. Donc il demande pas des.
Oui, il est cité. Vous avez Ariane Rothschild qui est citée. Vous avez Dieudonné qui va sur Internet pour dire ah là là, ils m'ont menacé, Ariane Rothschild elle a fermé. Donc ça veut dire que en France, il y a tout un tas de gens qui sont impliqués et je ne sais pas comment est-ce qu'il peut arriver à dire c'est une affaire américaine. Parce qu'il y a un volet français, il ne faut pas nier.
Est-ce que cette histoire peut être le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire que je ne sais pas. Je pense qu'on en est qu'au début des révélations. Je pense que cette affaire peut prendre encore plus d'ampleur. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit devant des preuves manifestes, des photos, des vidéos de ces gens en train de commettre leurs crimes. Et à ce stade, on n'a pas ces éléments-là, ni pour Jack Lang, ni pour Emmanuel Macron, par exemple. Et Emmanuel
Alors, je
Macron,
ne dis pas que Emmanuel Macron a fait
ou qu'il est impliqué quelque
qu'il l'a
part.
impliqué. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ou qu'il a un dossier contre lui, j'en sais rien. Non, ça je dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Macron demande des conseils et que Epstein vient à l'Élysée en 2019. C'est prouvé, hein, c'est écrit. Valeur actuelle, la sortie de l'info. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a au moins des liens, peut-être politiques ou d'affaires.
Alors oui, c'est vrai, mais le problème c'est que je ne sais pas en fait si Macron va subir les contre-chocs de la sortie de cette affaire parce que il a le réseau, il a les médias, il a quelqu'un comme Bernard Arnault qui était avec lui. Mais même si aujourd'hui il y a pas mal de son réseau qui le lâche hein, quand même, depuis notamment qu'il a reconnu l'État de la Palestine, il y a pas mal de son réseau qui le lâche. Par exemple Jacques Attali ou Alain Minc l'a quand même qualifié de pire président de la Ve République. Donc peut-être qu'il peut être fragilisé par cette affaire. Ceci dit, il a quand même clairement déclaré qu'il voulait revenir en 2032. Donc ça veut dire que lui, il n'a pas l'air de considérer qu'il y a un problème à ce stade. Il a l'air de considérer que c'est encore possible pour lui, sauf accident industriel. Et il a l'air de considérer que l'accident industriel ne s'est pas encore produit.
Alors, commentaire d'auditeur, comme le souligne Idrissa Berkane, la Macronie justifie la censure des réseaux sociaux par la protection de l'enfance, alors qu'en même temps, elle refuse toute commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein, chercher l'erreur. En effet. Deuxième commentaire, les Suédois viennent de concéder à l'armée américaine le droit d'utilisation de bases et de zones ex exclusives en dehors du droit suédois, avec extraterritorialité américaine, y compris pour le droit pénal, franchise fiscale totale. Bref, des conditions proches de celles d'une occupation militaire. De même, le Danemark, où des opposants ont introduit un recours constitutionnel. Trump serait cité dans le dossier Epstein pour des irrégularité dans la gestion de son golf en Californie, proche d'une escroquerie et de ses associés. Mais voilà, là c'est intéressant ce que dit monsieur ou madame, je sais, bon, monsieur, parce que le fait que les Suédois, voilà, donnent cet avantage aux Américains. On voit les Danois aussi. Les Danois se sont, je trouve, quand même très, pas très véhément par rapport au Groenland. Je veux dire, ça leur appartient. L'autre, il leur dit, non, ben, ça va être à moi le Groenland. Bon, ils ont dit oui, machin, peut-être non, on est très énervés. Ils ne le sont pas. Ça démontre que, en fait, si les Américains, et donc M. Trump, possèdent toutes toutes ces informations, parce que visiblement toute l'Europe est compromise, eh bien, ils pourront à terme, ils l'ont déjà fait, nous acheter, à 3 cacahuètes toutes nos entreprises, enfin, nous mettre à la rue complet, quoi.
Oui, bah alors peut-être que Donald Trump possède effectivement des éléments contre les élites européennes qui lui permettent de faire absolument tout ce qu'il veut quand il veut. Ceci étant dit, il faut quand même aussi se rappeler que les Danois, M. Donald Trump parle du Groenland depuis son élection, c'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant, et les Danois n'ont pas bougé un cil, et ils ont même continué à acheter le matériel militaire américain. Ce qui donne une possibilité aux Américains de leur donner des autorisations pour utiliser le matériel. Donc, ça veut bien dire que les Européens sont soumis aux États-Unis. Et de quelle manière le sont-ils ? Voilà.
Bah, je pense qu'ils sont soumis aussi de cette manière.
Avec le compromat, c'est tout à fait possible. Sachant qu'il y a aussi la famille de Norvège qui a été touchée. Toutes les élites sont touchées par cette affaire. Et on a des photos, peut-être, et des vidéos de tous ces gens en train de commettre des faits de pédocriminalité. Mais le problème, c'est qu'à ce stade, on ne sait pas encore qui. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une déflagration, une première déflagration maintenant, qui n'a pas encore touché la totalité des élites, et qu'il faudra une nouvelle déflagration pour qu'on sache tout.
Mais est-ce que justement, les Américains, et peut-être même les Israéliens aussi, les deux en même temps, hein, parce que de toute façon, leurs intérêts sont communs, il faut dire les choses. Donc quand on parle américain, il faut aussi parler israélien. Israélien, il faut aussi parler d'américain. Est-ce que en effet, là, c'est la première phase. Voilà. Regardez, nous avons tous ces mails. Bim, en gros. Et puis, vous continuez à vous coucher, parce que sinon, il y aura deuxième, troisième, quatrième et cinquième phase.
C'est tout à fait possible qu'on soit dans cette configuration-là, sachant que Donald Trump a quand même déclaré publiquement. Je détiens des éléments, un dossier sur Emmanuel Macron. Pourquoi déclarait-il cela s'il n'a pas d'éléments ? Moi, personnellement, je ne prends pas Donald Trump pour un fou. Je ne suis pas pro-Trump, mais je ne prends pas Donald Trump pour un fou. Donc, je pense qu'il est suffisamment prudent.
Il sait ce qu'il fait.
Alors, oui, moi, je pense qu'il est suffisamment prudent pour ne pas sortir ce genre de phrase s'il n'a pas vraiment les éléments en sa possession.
Et puis, regarde... constamment il le rabroue, ah, regardez, Emmanuel m'a appelé, il m'a dit qu'il allait se coucher, machin, et ça ne nécessite aucune réponse de Macron, parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai jamais vu un chef d'État dire ça sur un autre chef d'État. D'un moment, derrière ça, lorsque un chef d'État fait ça, j'imagine que normalement il y a crise diplomatique derrière.
Normalement il y a réaction, et il me semble que du temps de au moins quelqu'un comme Chirac, ah oui, ce genre de phrase n'aurait même pas été en fait prononcée du tout.
Mais même Chirac, même Mitterrand, même Giscard, avec qui vous voulez.
Oui.
Je veux dire, imaginez Ronald Reagan dire sur Mitterrand, François, il m'a appelé, puis en fin de compte, il a dit que non, s'il te plaît, ne parle pas à mon peuple, parce que tu... Non, mais...
Non, c'est Emmanuel Macron se fait humilier de temps en temps par M. Donald Trump, mais encore une fois, le problème, c'est... Si on se dit que les Américains ont des éléments sur le président français ou sur les élites françaises, en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on sache de quels éléments ils disposent. Parce que pour l'instant, on n'a pas ces éléments. Ces éléments ne sont pas sortis. Et c'est très embêtant parce que, si vous voulez, après, ça fait qu'il y a beaucoup de gens, qui, notamment des gens, des personnes lambda qui ne sont pas dans nos milieux, qui prennent la parole sans preuve, pour affirmer que les Américains ont tel dossier, tel dossier, tel dossier. Et ça fait qu'après, ils donnent du grain à moudre aux élites pour porter plainte contre eux, alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de se défendre. Donc, c'est là où je me dis, la limite, on peut faire l'hypothèse qu'il y a des éléments sur eux, et moi, c'est ce que je pense, puisque sinon, on n'aurait pas la vente d'Alstom comme ça, on n'aurait pas des tas de choses qui se seraient produites que contre nos intérêts quand même, hein, faut quand même le dire.
On a la dernière société là, de filiale de DF, Exalion, je crois que c'est ça, un nom comme ça, lié à l'intelligence artificielle. N'importe quelle société d'intelligence artificielle aujourd'hui coûte 10, 15, 20 ou 50 milliards. Grok, qui fait que 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, pèse 100 milliards. Et cette société de DF a été vendue 160 millions. Mais, Genre, Grok fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle vaut 100 milliards. Si demain, vous voulez racheter à monsieur Musk, s'il l'accepte, bien sûr, il faut allonger 100 milliards. Et nous, on vend notre fleuron IA 160 millions.
On vend au rabais.
Mais pourquoi on vend au rabais? Parce que tous ces gens ont des informations. Peut-être que le gars d'EDF, ou j'en sais rien, ou je sais pas quel haut fonctionnaire, est lié à tous ces dossiers.
Alors, c'est une hypothèse très forte, effectivement, parce que les gens n'iraient pas à ce point contre nos intérêts, des intérêts des Français. Encore une fois, on a vendu la partie stratégique de l'entreprise Alstom. Et on ne vendrait pas nos propres intérêts comme ça, on ne vendrait pas les bijoux de famille comme ça, s'il n'y avait pas quelque chose que les Américains détiendraient contre nous. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, il faut qu'on puisse dire quels sont ces éléments. La justice a saisi des éléments chez Jean-Luc Brunel, qui sont sur les photos et les vidéos. Je ne sais pas. Donc
il y a des photos et des vidéos
Chez Jean-Luc Brunel, la justice a saisi des photos, des vidéos, des clés USB et des disques durs.
J'imagine que les types à la Brunel, justement, parce qu'ils savaient qu'ils rentraient dans des endroits un peu dangereux, ont gardé des protections, même si ça ne leur a pas servi au final.
Peut-être, c'est aussi tout à fait possible. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jeffrey Epstein, lui, s'est quasiment établi qu'il avait des caméras chez lui et qu'il possédait...
Dont Avenue Foch.
Voilà, donc Avenue Foch, New York et Palm Beach. Et... Il est établi qu'il a les vidéos, il a les photos des gens qui sont venus chez lui.
Et donc, du coup, s'il faisait toutes ces choses sur son île, à Palm Beach, à New York, etc., il devait forcément les faire à Avenue Foch. Parce qu'en plus, c'est gigantesque, son appartement.
Alors, on sait que il a utilisé les trois appartes, et même, il y en a un au Nouveau-Mexique, où il a aussi commis des faits dans la propriété du Nouveau-Mexique. On sait qu'il avait des caméras dans les trois appartements et qu'il recevait faire des soirées à New York, c'est certain. C'est établi. Pour ce qui est de Little St. James, il avait aussi des caméras. Et on sait qu'une victime comme Virginia Giuffrey a dit qu'elle a été touchée par quelqu'un comme le prince Andrew à Little St. James. Et à New York. Donc, les faits se sont produits dans les trois appartements et il y a des caméras dans les trois appartements. Donc, les gens qui se sont rendus là-bas ont tous été filmés. Quand vous voyez, il y a des photos du prince Andrew, le prince Andrew regarde l'objectif dans les photos du prince Andrew. Donc, le prince Andrew sait qu'il est filmé et ou photographié. Donc, à mon avis, les éléments sont. Jeffrey Epstein était en possession des éléments.
Donc, qui a justement aujourd'hui ces éléments en France? Est-ce que les vidéos, parce que j'imagine qu'il y a des centaines et des centaines d'heures de vidéos, qui les a en France? Est-ce qu'on les a détruites? Est-ce qu'on les a gardées? Est-ce que c'est archivé? Est-ce que l'on sait ça?
Ça, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a un acte du ministère de la Justice qui dit qu'il y a eu une perquisition chez Jean-Luc Brunel. Je ne sais pas où...
Chez Brunel ou chez Epstein, hein?
Ou chez Brunel ou Epstein. Et je ne sais pas où ces éléments ont été entreposés. Je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui. Et je ne suis pas capable de vous dire qui les avait en possession avant que la justice ne mette les pieds là-bas. Epstein, très probablement. Brunel, très probablement. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous dire où sont ces photos et ces vidéos.
Donc ce serait la deuxième partie, en fait. Même si je pense qu'il est peut-être possible que tout ça a été détruit, peut-être par la police française.
C'est une possibilité aussi.
Mais est-ce que la police française a la possibilité de détruire ce genre de choses? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'aujourd'hui, peut-être des services français possèdent ça aussi.
C'est pour aussi le coup. Une possibilité.
En fait, tout est possible dans cette histoire.
Oui, alors je sais aussi que, par exemple, entre les États-Unis et le Royaume-Uni, il y a des traités de coopération policière qui oblige les policiers britanniques, quand ils saisissent des preuves, à les envoyer aux policiers américains.
Et donc, sans les regarder
Peut-être en les regardant, ils ont le droit de les regarder, mais ils ont le droit d'ailleurs de tout saisir et de les envoyer à la police américaine. En les regardant, c'est possible qu'ils aient le droit de le regarder, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça reste pas en leur possession à eux.
Ils peuvent pas faire de copie.
C'est possible qu'ils puissent faire des copies, mais de toute façon, les originaux, tous les originaux,
doivent être apportés aux
doivent
Américains.
être envoyés à la
Donc il est
police
possible
américaine.
que la France ait un accord comme celui-là.
En tout cas, ce qui est établi, c'est que le Royaume-Uni et les États-Unis ont un tel accord. Je n'ai pas trouvé pour l'instant preuve d'un tel accord avec la France. Mais ce qui est certain, c'est que la police de Palm Beach, Jeffrey Epstein, lui, il a donné 100 000 dollars à la police de Palm Beach, qui est
D'accord.
donc celle qui reçoit les preuves des pays étrangers où il a été.
Alors, j'ai une question d'auditeur. La finance internationale qui a pris partout le pouvoir politique à la place du pouvoir philosophique n'a-t-elle pas besoin de désigner un bouc émissaire comme Epstein pour sauver sa peau à l'heure d'une crise économique mondiale et du risque de révolution des peuples?
Alors, moi, ce que je dis, c'est que, encore une fois, Jeffrey Epstein, c'est un exécutant. Donc, si jamais il y a une affaire qui sort et que c'est Jeffrey Epstein qui est mis en avant, c'est parce que c'est lui l'exécutant et que ça permet de couvrir ceux qui sont au-dessus de lui. Et Ghislaine Maxwell, elle a quand même osé demander la grâce. Ça veut dire qu'elle, elle estime qu'elle peut l'avoir. Donc, ça veut dire qu'elle estime qu'elle est au-dessus de Jeffrey Epstein, qui, lui, était sur le point d'être condamné. Avant d'être.
Oui, c'est vrai, parce que, allez, ça c'est vrai. C'est un point qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que lui a été tué.
Voilà.
Elle, elle est vivante.
Oui, elle est en vie et elle est devant le Congrès. Et je veux dire, il faut quand même avoir une sacrée audace pour se présenter devant le Congrès, donc la représentation nationale américaine, s'asseoir et dire cinquième amendement, je ne parle pas et je veux la grâce de Donald Trump.
Elle n'a pas peur de la mort.
Elle a peur de rien. Elle a pas peur de la mort. Elle a pas peur de Donald Trump. Elle a pas peur des congressmen, des sénateurs. Elle a pas peur des hommes politiques. Elle considère qu'elle est peut-être même leur supérieure. Que eux, c'est des sous-fifres. Et que elle est à la table. Elle parle à tous ces gens. Elle leur dit, écoutez, je veux la grâce de Donald Trump. Vous allez dire à Donald Trump qu'il doit me gracier.
Est-ce qu'on sait pour combien d'années elle est condamnée?
Je crois qu'elle risque 20 ans, quelque chose comme ça. Elle risque une vingtaine d'années de prison, oui.
Qu'elle a déjà faite ou...
Je crois qu'elle a été condamnée. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Et je crois que c'est pour ça qu'elle demande la grâce, pour donner les éléments qu'elle a. Et encore une fois, elle n'a pas nié les faits. Elle dit, quand on lui pose des questions, elle ne dit pas, je n'ai pas fait ça, je n'ai rien fait, c'est faux, etc. Elle dit, je ne dis pas, je ne donne pas les éléments que je connais. Et pour que je dise ce que j'ai, donc ça veut dire qu'elle a des choses. C'est pour que je dise, moi, ce que vous voulez savoir, la grâce. Je veux la grâce. Donald Trump, il doit me donner la grâce.
Alors, commentaire d'auditeur, la France vient de vendre aux Américains l'entreprise VTM qui installe les systèmes de ventilation sur les sous-marins, sur les avions et qui a donc accès à des informations techniques détaillées sur ces éléments clés de notre défense. Évidemment, nous avons des garanties morales qu'on nous dit haute trahison, avez-vous dit? Oui. Comment, voilà, c'est aujourd'hui, on a cette affaire Epstein, on comprend pourquoi. Par exemple, voilà, un VTM aujourd'hui est vendu, et je suis sûr que si je regarde, c'est vendu 3 cacahuètes. Bon, les dirigeants de VTM, je suis sûr qu'auront pris le paquet. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, ça aurait été vendu 3 cacahuètes. Et ça dure depuis, en tout cas depuis que M. Macron est au moins ministre de l'économie et des
Oui,
finances.
mais moi, de toute façon, moi je prends pour sûr, mais c'est une hypothèse, mais moi je pense que Emmanuel Macron a été placé là pour vendre ce qu'il a vendu.
Justement, Ariane de Rothschild est très présente dans ses mails. Quels sont les liens entre Ariane de Rothschild et Emmanuel Macron?
Alors, Emmanuel Macron, on sait qu'il a travaillé à la banque de Rothschild pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Il a été recruté par David de Rothschild et par Ariane de Rothschild qui ont poussé pour que ce soit lui qui rentre à la banque Rothschild. Et c'est aussi Ariane de Rothschild qui parle avec Jeffrey Epstein et qui transfère tous les documents sur sa famille et les documents financiers à Jeffrey Epstein. Donc moi j'ai l'impression que le lien entre Jeffrey Epstein et l'affaire Macron et les Macron, c'est les Rothschild. Puisque ce sont les Rothschild qui poussent Emmanuel Macron. Et ce sont les Rothschild qui parlent finance avec Jeffrey Epstein. Epstein, pardon. Voilà. C'est le lien entre les deux.
C'est enfin, voilà, on comprend tout. On comprend tout. Et je vais vous dire une chose. Moi, en tout cas, à titre personnel, je ferai énormément d'émissions sur cette histoire parce que je pense que là, on n'est pas juste sur l'histoire de corne-cul. Hein. On est sur une histoire de trahison nationale en temps de guerre. Et peut-être que nous aurons la guerre, hein, puisque visiblement, le bon président fait toutes ces provocations contre la Russie, donc peut-être qu'il y aura la guerre. Donc, mais en temps de guerre, il faut se dire les choses, la haute trahison vaut le peloton. Voilà. Bon, je ne sais pas si cette phrase sera gardée, mais bon, moi, en tout cas, je la maintiens et je l'assume. Cette histoire, Jeffrey Epstein aussi, met en lumière, faut se dire les choses, les forces des ténèbres qui sont à la tête de ce pays. Bon, que Jeffrey Epstein fasse ces choses en Amérique, je m'en fous à la rigueur. En Israël, je m'en fous aussi. Mais en France, il a implanté la France parce que les forces des ténèbres sont dorénavant implantées dans ce pays et on le voit par l'inversion des valeurs que nous apporte la République. Tiens, une autre question d'auditeur. Peut-on imaginer que le service américain n'ait pas été informé, sinon bénéficiaire du commanditaire des services d'Epstein? Une collaboration directe avec le Mossad ou une implication telle qu'il ne pouvait que collaborer dans un chantage réciproque bénéficiaire pour les deux? Des chantages réciproques sur des motifs divers. L'attitude de Trump dans la politique israélienne s'expliquerait facilement. Mais la question principale pour nous est de savoir ce que nos services ont su et fait.
Oui, alors là, il faut se demander déjà ce qui se passe au niveau des renseignements et ce qui se passe au niveau de la politique. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de Donald Trump, le fait que ces documents sortent, c'est un calendrier. Il faut regarder le calendrier. Et donc, c'est soit Donald Trump est en mesure de sortir parce qu'il s'est fait élire sur la promesse, donc il le sort maintenant parce qu'il est aujourd'hui en mesure, soit c'est quelqu'un qui sort à sa place le dossier pour le menacer de révéler qu'il est dedans, et pourquoi faire. Et donc moi, mon hypothèse, moi je me demande, je me pose la question, est-ce que ce sont les Israéliens qui sortent le dossier d'une manière ou d'une autre pour dire à Donald Trump, on a le reste sur toi, donc il faut que tu ailles en Iran. Je ne sais pas, je pose la question. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que pendant la guerre des 12 jours, par exemple, au mois de juin, Donald Trump, les Israéliens ont demandé à Donald Trump d'aller en Iran. Donald Trump y est allé à reculons. Et il n'a pas frappé très fort là-bas. J'ai l'impression, en regardant les trous où il a tapé, en regardant un petit peu les installations qui ont un peu été détruites, etc., j'ai l'impression qu'il n'a pas été frappé très fort là-bas parce qu'en fait, il ne voulait pas y aller. Et il a d'ailleurs appelé les Iraniens pour dire qu'il allait frapper. Les Iraniens ont eu le temps de déménager ce qu'il y avait à déménager. Et ensuite, il a frappé et pas très fort. Donc moi, j'ai l'impression que Donald Trump...
Il résiste, mais il ne peut pas tant que ça.
Voilà, j'ai l'impression qu'il ne peut pas, qu'il y a quand même un lobby israélien qui est très implanté aux États-Unis et que Donald Trump, même s'il n'est pas idéologiquement en adhésion avec les Israéliens, j'ai l'impression qu'il n'a pas le choix de tout faire. Il n'a pas de marge de manœuvre très grande. Donc, mon hypothèse sur ces photos, c'est que soit c'est lui qui les a sortis parce qu'il a promis de les sortir, soit quelqu'un les sort pour le menacer lui de divulguer ce qu'il y a à l'intérieur, pour des raisons que je ne connais pas, et moi je demande si c'est pour le forcer à aller.
Mais est-ce qu'en Amérique, la justice, tout ce qui est lié à la justice peut faire fi de ce que demande Donald Trump? Est-ce qu'ils sont assez indépendants
Alors, moi, mon hypothèse, c'est qu'il a essayé de placer des gens à lui dans les services judiciaires. Par exemple, vous avez quelqu'un comme Pamela Bondi, qui est donc procureur en chef, donc ministre de la Justice. Elle, c'est une femme à Donald Trump, cette femme. Cette femme, c'était son avocate avant, à lui, et elle est devenue ministre de la Justice, et c'est elle qui fait ce que Donald Trump veut faire. Donc, moi, je pense que les services de justice américains, dans certains postes stratégiques, ce sont des gens de Donald Trump, et ils font ce qu'il va demander. Mais c'est une question de personne. Ce n'est pas une question de système. C'est-à-dire qu'il est fort possible que si ce n'avait pas été Pamela Bondi à ce poste, que la personne puisse refuser de le faire. Donc, Pamela Bondi, elle avait le dossier sur son bureau avant de le sortir. Elle l'a depuis le mois de novembre-décembre. Et Donald Trump a hésité, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas. Et il semblerait que Donald Trump lui ait dit, sors l'affaire, et qu'elle l'ait mis sur le site de son ministère.
Merci beaucoup, cher Infocratie. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, comment vous voyez Non, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Comment on peut vous retrouver, cher Infocratie?
Alors, Infocratie, c'est sur YouTube, notamment, en grande partie. C'est là où je mets mes reportages et mes éditos. J'ai fait beaucoup de reportages, notamment, par exemple, sur les mouvements sociaux, les grèves, les manifestations.
D'accord. Epstein, des reportages qui arrivent bientôt, des choses.
Alors, je suis en train de préparer un deuxième édito sur l'affaire Epstein parce que je regarde les documents, donc j'essaie D'accord. d'avoir des éléments pour faire un deuxième édito dans les prochains jours. Il y a beaucoup de reportages aussi sur les mouvements africains.
D'accord.
Donc, le mouvement soudanais, les mouvements congolais. Vous allez retrouver des reportages bientôt. Peut-être je vais aller à la manif de Philippot aujourd'hui.
Donc, c'est demain.
Demain.
Ouais, voilà. N'allez pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est mort. Hein.
Donc, je vais voir si je vais filmer cette manifestation. Et c'est un média, ce média qui est notamment afro-féministe, enfin féministe décolonial, souverainiste et socialiste. Et je vais essayer aussi de développer les questions de féminisme décolonial, notamment pour développer les questions sur les femmes noires en France,
D'accord.
problématiques auxquelles elles sont confrontées.
Ça va pas être du Roca Diallo quand même.
Non, ça va pas être exactement
voilà,
du Roca
Diallo.
Mais je vais essayer de développer ces thèmes-là aussi sur cette chaîne-là parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur.
D'accord.
Et pour essayer de.
Donc Infocratie YouTube ouais. et quoi TikTok aussi.
Alors c'est aussi sur TikTok. Mais je dois avouer que le TikTok pour l'instant c'est essentiellement en faisant des lives que je l'utilise.
Epstein.
Notamment aussi. Mais l'essentiel de mon travail est sur YouTube.
D'accord. Merci beaucoup, cher Infocratie. En tout cas, on a appris beaucoup de choses ce matin. Voilà, suivez Infocratie sur YouTube. Merci à vous d'avoir été si nombreux comme toujours. On se retrouve, nous, semaine prochaine, même endroit, même heure. Passez une excellente journée. Salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie, samedi 14 février 2026 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.